bonjour. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. C'est impressionnant comme ça, là. J'ai levé la tête. Donc, oui, on m'a demandé de vous faire un exposé sur donc, le concept d'entreprise contributive. C'est ce qu'on pousse dans le groupe Bouygues et effectivement au sein du réseau C3D, qui agrège en fait à peu près 140 entreprises, essentiellement des grosses, qui se posent la question de reconfigurer leur modèle d'affaires à l'aune des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui et dont les générations précédentes se sont mal occupées, manifestement, parce qu'il va falloir qu'on fasse tout le boulot, et que surtout vous d'ailleurs, dans les 10 à 20 ans qui viennent. Donc, c'est quoi la définition d'entreprise contributive? C'est une entreprise qui contribue en fait à rendre les gens heureux, hein, c'est quand même le but de la vie. Car on pourra considérer à la fin de notre vie qu'on a été heureux si on a passé le plus de temps entre nos naissances et notre mort à passer du bon temps sur cette bonne vieille terre. Et que lorsqu'on sait qu'on passe à peu près 40 à 45 ans de sa vie au travail, il va falloir qu'on reconfigure aussi cette notion de qu'est-ce qu'on fait quand on travaille dans une entreprise, dans une association ou dans n'importe quel organisme qui nous nourrit. Et il va falloir le faire, donc, tout en continuant dans les années qui viennent à créer de la valeur pour les parties prenantes qui payent, donc ceux qui contribuent en fait à faire fonctionner l'économie, donc bien sûr les clients, rémunérer les actionnaires, et il va falloir aussi le faire en générant que des externalités positives, alors qu'en fait 100% des entreprises aujourd'hui génèrent une partie d'externalités positives, mais une grande partie aussi d'externalités négatives, donc on entend par externalité tout ce qui est pas bon en fait pour les écosystèmes notamment, et on va le voir, les consommations de ressources, les émissions de gaz à effet de serre. Donc il va falloir faire tout ça en consommant toujours moins de ressources. Donc vous avez certainement eu des cours d'économie reliés au climat, enfin j'espère pour vous en tout cas, et on sait que depuis que l'ère industrielle a démarré, il y a un couplage complet entre PIB et consommation d'énergie et émissions de gaz à effet de serre. Ben là, il va falloir qu'on découple, c'est-à-dire qu'on continue de créer la valeur, je ne sais même pas si c'est possible de le faire, et diminuer en fait les consommations de ressources. Donc c'est ça en fait toute l'idée. Et pour arriver à faire ça, donc c'est prendre en compte les fameuses macro-tendances que vous connaissez aussi sans doute. Macro-tendances, donc les émissions de CO2, l'érosion de la biodiversité, on en parle beaucoup en ce moment avec la conférence en cours. Les problèmes de qualité de l'air que vous connaissez aussi, 173 000 morts prématurées en Europe, 48 000 en France, liées à une dégradation continue de la qualité de l'air dans nos pays, avec les fameuses particules fines, les pollutions lumineuses qui jouent beaucoup sur les cycles physiologiques, y compris les nôtres, l'artificialisation urbaine, la congestion des transports, et puis les problèmes d'îlots de chaleur avec les canicules qui se succèdent dans les villes. Il peut faire plus de 7 degrés, vous le savez, dans le cœur des villes, par rapport à la campagne pendant les épisodes caniculaires, ce qui rend les villes invivables, et puis les problèmes de bruit. Donc tout ça, vous le savez par cœur. Il y a les tendances sociétales aussi qui sont à prendre en compte dans les entreprises, donc la silver economy, nos continents, alors pas autant que le Japon, mais vieillissent vite. 30% de la population aura plus de 60 ans en 2030 en France, quand même pas rien. Donc la prise en compte des objectifs du développement durable, vous avez peut-être entendu parler de ça, les 17... objectif de l'ONU. La précarité, il n'y a pas que dans les pays dits émergents qu'il y a une partie pauvreté, une partie de gens nantis. Dans les nôtres aussi, hein, il y a à peu près 11 millions de pauvres en France, des gens qui sont au-dessous du seuil dit de pauvreté. L'essor des nouvelles économies du partage, avec beaucoup d'avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients, avec bien sûr l'augmentation importante de la consommation de ressources liées à l'économie numérique. L'économie numérique, n'en parlons-en, avec des mots qui font assez savants, mais en fait qui pénètrent assez lentement dans les entreprises, même si on pense que ça va sauver le monde. Moi, j'en suis pas tout à fait sûr. Donc, tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle, les crypto-monnaies, l'analyse des data, donc tout ça, ça va être des moyens pour faire mieux, plus vite et moins cher. Mais il ne faut pas non plus se leurrer trop sur ce qui va se passer autour de tout ça. On verra tout à l'heure pourquoi. Et puis, les réseaux sociaux. Alors. Pour les managers qui sont dans les entreprises, Bouygues, en deux mots, hein, c'est 135 000 collaborateurs, 5 métiers distincts, vous connaissez par cœur, la construction, l'immobilier, Colas, Bouygues Télécom et TF1, avec une grosse participation dans Alstom. Donc on a donc beaucoup de collaborateurs qu'on forme tout au long de leur vie dans des cycles internes de management, donc l'Institut Management Bouygues, Et j'enseigne là-dedans. Et en fait, on leur dit quoi, nos managers? Ben, il va falloir penser le futur, hein, dans un monde quand même assez incertain. Il va falloir réinventer, et on va le voir tout de suite avec un exemple, nos modèles économiques, ceux qu'on a utilisés depuis le début de la création de Bouygues et qu'il va falloir reconfigurer aujourd'hui. Travailler de plus en plus sur l'expérience client pour que les clients continuent de nous aimer avec une concurrence qui s'accroît. L'intégration donc du numérique dans tous nos métiers, ce qui n'est pas facile. L'excellence opérationnelle, c'est la délivrance du produit perçu par le client avec un minimum de non-qualité, de surqualité embarquée. Il faut savoir que le chiffre d'affaires de la non-qualité, de la surqualité dans les entreprises équivaut à peu près entre 5 et 25% du chiffre d'affaires de surqualité et de non-qualité. Donc 1% de non-qualité en moins, donc de dysfonctionnement de toute nature, c'est 1% de marge nette en plus. Et puis, au-delà de la reconfiguration des modèles économiques classiques, donc classique c'est ici, il y a la réinvention de nouveaux business. Donc on met en place dans les entreprises aujourd'hui, et notamment chez Wix, ce qu'on appelle un programme d'intrapreneuriat, où on propose à nos collaborateurs qui ont des idées de business d'être incubés, accélérés dans des accélérateurs avec lesquels on a des partenariats pour développer in-house des business pour nos clients. Alors, on rentre dans le vif du sujet, donc on va essayer de passer pour sauver l'humanité d'une économie dite négative, linéaire, qu'on a enseignée dans les écoles pendant des années et qui fonctionne très bien pour certains aspects, mais qui c'est juste pas durable pour tout un tas d'autres aspects. Vous savez que le business, c'est quoi finalement? Le business, c'est des matières premières transformées avec de l'énergie, avec de l'intelligence humaine, des machines, des moteurs et de la chimie. C'est ça le business en fait. Et l'économie négative a consisté pendant des décennies à extraire des matières premières qu'on ne paye pas. La nature ne renvoie aucune facture. Les poissons dans les océans sont gratuits, les minéraux dans les mines, tout ça c'est gratuit. C'est le travail humain qui est payant, mais les matières premières en tant que telles sont gratuites. On fabrique des produits à durée programmée, à durée de vie programmée, à la fameuse obsolescence programmée. On les vend et les consommateurs les utilisent pendant une période assez brève avant de les jeter sans autre forme de procès. Donc en fait, c'est ça en fait le capitalisme moderne aujourd'hui. Alors ça fonctionne bien, hein, ça fonctionne très bien, mais vous allez voir que les effets collatéraux sont aujourd'hui inacceptables pour la planète. Alors on dit souvent que le capitalisme consiste en fait pour les entreprises à créer des produits pour des consommateurs qui n'en ont pas toujours besoin, que ces mêmes consommateurs achètent avec de l'argent qu'ils n'ont pas toujours, tout ça pour impressionner d'autres gens qui n'en ont rien à foutre. On en est là, en fait, aujourd'hui, c'est le constat. Alors, comme les signaux faibles sont devenus forts, il suffit de voir le septième continent plastique, les changements climatiques en cours, les entreprises, depuis quelque temps, sont interrogées sur le modèle économique, on est challengé par les ONG qui dénoncent ça depuis des décennies sans être écoutées. Aujourd'hui, les signaux deviennent forts, les investisseurs commencent à challenger les entreprises sur leur modèle d'affaires et il y a le début du commencement d'un réveil de prise en compte écologique dans les entreprises. Donc on est incité à réduire, recycler, revaloriser pour diminuer l'empreinte. Donc tout ça, c'est très bien, mais en fait, ça ne change pas grand-chose sur le fond du problème qui est le mode de consommation et le mode de production des objets et des produits proposés au marché. Donc il faut aller vers un modèle dit contributif, un modèle où on sera à zéro externalité négative, donc plus de gaz à effet de serre, plus de consommation de matières premières issues des industries extractives. On sera donc en mode circulaire full, on vendra donc des usages et plus des produits. Donc on n'y est pas du tout, hein. Il y a très très peu d'entreprises aujourd'hui dans le monde qui sont selon le mode contributif, mais c'est ce qu'on doit arriver à faire et tout ça en moins de 20 ans. Alors il y a deux écoles là, il y a l'école de la green economy. Donc vous avez tous entendu parler de cette école-là, les produits bio, les voitures électriques. Alors tout ça c'est très bien, mais c'est plus cher. Donc c'est réservé à une toute petite tranche de la population mondiale. En aucun cas, on est sur une approche inclusive avec la green economy. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la faire, mais en tout cas, ce n'est pas celle qui va sauver le monde, vu que la plupart des gens n'ont pas les moyens de se payer ce type de produit. Donc il faut aller vers ce qu'on appelle la blue economy. Donc la blue economy, a toutes les caractéristiques de la green economy, sauf que c'est moins cher. Et vous allez voir, au travers de l'exemple que je vais vous donner, ça nécessite de repenser complètement en fait le modèle d'affaires. Alors une autre façon d'illustrer ce que c'est que le business, ici vous avez donc, je vous l'ai dit, hein, le business, ce sont des matières premières transformables, vous avez des ressources naturelles renouvelables, donc tout ce qui est les poissons dans les océans, l'agriculture, donc les arbres, tout ce que la nature peut faire pousser sur un cycle annuel. Donc ça, c'est renouvelable. Les stocks naturels non renouvelables, eh bien, vous avez les énergies fossiles, bien sûr, et puis tous les minéraux, tous les métaux qui sont sur Terre avec un stock fini. Et vous avez tous fait un petit peu de mathématiques ici, je pense. Ce stock fini, eh bien, une fois qu'on l'a utilisé, eh bien, il tend vers zéro, vers l'infini. Donc un jour, il n'y en aura plus. Alors, bien sûr, il reste encore pas mal de stocks dans certains domaines, mais dans beaucoup d'autres, on est déjà arrivé sur un plateau. Et donc, on n'est pas loin déjà de la déplétion de ces stocks. Alors, certains, on va pouvoir les reconstituer malgré tout. Hein. Je pense à certains métaux qu'on peut recycler. Et puis d'autres, on ne peut pas parce que c'est dispersé, les molécules sont dispersées. Si vous voyez, quand on regarde des feux d'artifice aujourd'hui, on se dit oh, c'est très très joli, mais on, sans le savoir, la plupart des gens ne le savent pas, mais on disperse énormément de métaux lourds dans la nature qu'on ne pourra jamais récupérer d'une façon ou d'une autre. Donc ces externalités négatives, elles sont générées par les activités humaines de production. Et comme dit la chanson d'Alain Souchon, en déstockant tout ce qu'il y a dans la nature, eh bien, on retrouve ces matières premières transformées dans nos armoires, donc les cafetières électriques, les voitures, les métaux. Donc on déstocke, on passe notre temps à déstocker, et en déstockant, donc, on génère ces fameuses externalités qui sont les pollutions induites par les activités humaines. Alors, ce qu'il faut retenir de cette courte introduction sur l'état de l'art, c'est l'enjeu principal au-delà de la biodiversité, mais enfin c'est très lié au climat, c'est ce qui nous reste à émettre comme CO2 d'ici 2100. Donc ma slide n'est pas tout à fait à jour en fait, hein, mais les chiffres, les ordres de grandeur sont les mêmes. Si l'humanité veut rester en dessous des 2 degrés, alors le problème c'est pas le réchauffement de 2 degrés, tout le monde s'en fout des 2 degrés, ce sont les dérèglements climatiques liés aux 2 degrés, parce que il y a déjà un delta de plus de 2 degrés entre le matin et l'après-midi dans tous les pays. Mais ce n'est pas le réchauffement en tant que tel qui est dangereux, c'est les dérèglements liés associés au réchauffement. Donc si on veut rester en dessous des 400 ppm de CO2 de l'atmosphère, donc pour rester à 2 degrés, il ne faut pas émettre plus de 2900 gigatonnes de CO2 de l'atmosphère. Une gigatonne, c'est 1000 milliards de tonnes. On en a déjà émis 1900 depuis le début de l'ère industrielle. Et donc le budget carbone en 2019, ce n'est pas 1000. Mais c'est 870-900 gigatonnes qui restent à émettre d'ici 2100. Le seul problème, c'est qu'à la vitesse où l'humanité émet le CO2 aujourd'hui, eh bien, on aura bouffé notre budget d'ici une quinzaine d'années. Donc, le GIEC nous a dit quoi? Les scientifiques du GIEC nous ont dit quoi? Ils nous ont dit, voilà, il faut qu'on divise par deux les émissions mondiales d'ici 2030 et par trois d'ici 2050, ce qui est un défi énorme que l'humanité va devoir résoudre si on veut maintenir l'écosystème climat à peu près en l'état, même si c'est déjà bien abîmé. Donc c'est ça le défi en fait que vous allez avoir, vous, dans vos entreprises, c'est d'aller vers donc des systèmes économiques complètement bas carbone, neutres en carbone. Vous n'avez pas le choix, de toute façon, ça va être le driver de toute votre vie. Et ça, c'est quand même assez excitant d'un point de vue intellectuel, mais ça va être très compliqué à faire. Alors, nous, chez Bouygues, de toute façon, à notre niveau, hein, donc Bouygues, c'est une grande entreprise, mais on ne pèse rien à l'échelle mondiale. Sachez que l'empreinte de Bouygues sur le BTP en France, c'est moins de 5%. Et alors, à l'échelle mondiale, ça doit être 0 point quelque chose. Donc, on est un gros constructeur, mais il y a énormément d'entreprises de BTP dans le monde. Alors, je ne vous parlerai que de la partie BTP aujourd'hui, je ne vous parle pas de la partie télécom ou médias. Et on a quand même réfléchi sur dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire dans un tel environnement, qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre aux défis écologiques et sociaux qui est devant nous. Donc on a rassemblé il y a quelques années une cinquantaine de collaborateurs issus de l'ensemble de nos métiers, et puis on leur a lancé en fait un défi. Vous savez qu'on innove que sous la contrainte, et on leur a donné une contrainte, on leur a dit voilà, essayez d'imaginer un concept building qui puisse cocher toutes les cases des enjeux climat, enjeux ressources, et qui puissent en plus nous faire gagner beaucoup d'argent. Donc, ce n'est pas facile. Et on les a mis dans un bocal là, pendant plusieurs jours. On a inventé collectivement le concept de bâtiment hybride à économie positive, qui est un concept building qu'on a vendu déjà une fois et qui vient d'être labellisé par la fondation Solar Impulse de Bertrand Piccard. comme étant l'une des 1000 solutions retenues pour sauver le monde dans les 20 ans qui viennent. Alors comment ça marche, un bâtiment hybride à économie positive? Je vais vous expliquer ça. Il a été conçu donc pour générer plus de profits que de charges pour le faire fonctionner. Et ce concept, bien sûr, est susceptible de s'appliquer à la totalité du parc installé, du parc construit de l'humanité, à condition d'en respecter les codes. Alors, le principe, il est le suivant. Il y a 6 leviers pour faire du business autrement lorsqu'on est dans la construction aujourd'hui. Le premier levier, c'est de travailler sur la mutualisation, on va le voir, sur la haute qualité d'usage, sur la valorisation des flux physiques, sur la personnalisation, la mutabilité, la réversibilité des ouvrages, sur le trading des matériaux et sur la valorisation des externalités. Quand on cumule ces 6 leviers, eh bien, on a un bâtiment qui est très rentable. Alors le premier levier, en quelques mots, on part du principe que les infrastructures bâties, donc 34 millions de logements en France, alors je vous donne les chiffres français, 191 millions au niveau européen, 840 millions de mètres carrés de bâtiments tertiaires, dont celui-là, ce sont des infrastructures qui sont mal gérées depuis des décennies, parce qu'elles sont gérées selon un principe de mono-utilisateur. Donc on a été voir finalement quel était le secteur qui gérait ces infrastructures d'une façon le plus optimisée. Et on s'est aperçu que le secteur qui gérait ces infrastructures d'une façon le plus optimisée, c'était l'aviation civile. Donc l'obsession des compagnies aériennes, lorsqu'elles ont un parc avion dans leur flotte, c'est que les avions soient en l'air et qu'ils soient pleins. Voilà, parce que quand les avions ne sont pas en l'air et qu'ils ne sont pas pleins, ben, la compagnie aérienne perd de l'argent. Donc les compagnies aériennes, depuis une trentaine d'années, ont développé en fait le principe du yield management, qui, alors ça s'appelait le surbooking dans le temps, alors maintenant ça s'appelle le yield management, qui consiste en fait à avoir un système de pricing adapté, donc pour faire en sorte que jusqu'au dernier moment, la compagnie puisse le vendre un maximum de billets pour que l'avion parte plein. Donc ça, on s'est dit, mais finalement, il faudrait qu'on puisse appliquer au bâtiment ce que les compagnies aériennes appliquent pour eux-mêmes. Donc ça veut dire en fait que dans un bâtiment, quel qu'il soit, l'objectif c'est de faire rentrer le dehors dedans, et que pour les espaces potentiellement partageables, donc dans un bâtiment tertiaire, tertiaire c'est un bâtiment de bureau, qu'est-ce qui est potentiellement partageable? Ce sont les parkings, la salle polyvalente, ce genre de salle, le restaurant entreprise, des salles de réunion, des Fab Labs, etc. Eh bien, ce sont des infrastructures, ce sont des espaces qui peuvent être utilisés par un utilisateur primaire, mais aussi des utilisateurs secondaires, tertiaires et quaternaires. Donc, pour ça, il faut ce qu'on appelle un community manager, qui va être chargé de commercialiser ces espaces lorsque l'utilisateur principal n'en a pas l'usage. Alors, bien sûr, ça pose tout un tas de problèmes de sécurité, d'accès, etc., de porosité du bâtiment, mais ce n'est pas des problèmes insurmontables. Et ça permet de faire rentrer ce qu'on appelle le dehors dedans et de créer des recettes additionnelles avec un taux d'usage qui peut passer, tenez-vous bien, aujourd'hui sur les bâtiments tertiaires c'est de 20-25%, qui pourra passer de 60-70%, voire 100%. Donc là, on résout déjà un premier problème qui est l'utilisation du bâtiment dans toutes ces dimensions. Donc ça marche bien sûr pour les parkings, ça marche pour les toitures terrasses des bâtiments. On va voir que les toitures terrasses vont toutes petit à petit progressivement devenir productives. Ça marche pour les salles techniques, ça marche pour tout. Et ça marche surtout bien sûr pour des espaces partagés de travail, donc les fameux coworking. Aujourd'hui il y a 1700 sites de coworking en France, il y en avait zéro il y a 10 ans. Donc ça se développe beaucoup. Ce sont des espaces partagés où les gens prennent des abonnements, un peu comme dans les salles de gym, mais comme on sait que tout le monde n'y va pas en même temps, eh bien, il y a toujours de la place pour ceux qui y vont. Les systèmes de commerce éphémère aussi, d'utiliser les infrastructures pour pouvoir, quand il y a beaucoup de monde dans le bâtiment, permettre à des marchands de quoi que ce soit venir vendre leurs produits. Donc, les toitures productives, on passe actuellement de toitures ludique à des toitures productives avec de l'agriculture urbaine productive avec des serres à climat contrôlé sur les toitures, des légumes rares. Il y a tout un tas de boîtes aujourd'hui qui s'organisent autour de ce business model qui était anecdotique il y a quelques années et qui devient maintenant incontournable dans nos projets immobiliers. Et puis le fameux FlexiMove, donc une petite start-up qu'on vient de créer, une collaboratrice de Bouygues Télécom qui a monté cette start-up et qui consiste en fait à faire du yield management dans les parkings. Donc on prend des parkings à bail et on fait du Airbnb du parking, c'est-à-dire qu'en fait les collaborateurs arrivent avec leur voiture, on leur propose que leur voiture soit sous-louée et qui permet de libérer une place de parking, bien entendu. Et donc on arrive à des taux de remplissage des parkings de 140 à 160%. C'est extrêmement rentable. Et on a aussi un corner FlexiMove ici. C'est-à-dire que dans ce parking, on a la possibilité de sous-louer des vélos électriques, des trottinettes électriques, tout ce que vous voulez. Donc les gens, quand ils arrivent en voiture, ils repartent avec un système de transport doux. Et on a mis en place un système de gamification qui incite en fait les gens qui utilisent ce type de device à utiliser le bon device par rapport à leur usage. Ça marche très bien. On en a quelques-uns dans Paris aujourd'hui qui sont équipés de ce service-là, et ce qui permet en fait de rendre un parking qui est un centre de coût, de le rendre centre de profit. Donc premier levier, la mutualisation. Deuxième levier, la mutualisation pour le logement. Donc c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour mon propre logement. Donc vous savez que maintenant il y a le Airbnb du logement en journée, donc pour du coworking avec l'application Office Rider, à condition que bien sûr votre logement soit conçu pour. Vous pouvez aussi rentabiliser votre logement en le sous-louant lorsque vous n'êtes pas dedans. Donc ça, rien qu'à Paris, c'est 100 000 nuits par jour. Donc soit Wi-Fi Stay, soit Airbnb. Wi-Fi Stay, c'est pareil qu'Airbnb, c'est un peu moins connu, c'est une filiale d'Accor. Vous avez aussi la possibilité d'avoir, bon, j'ai pas le temps de vous montrer les vidéos, mais d'avoir la possibilité de séquencer votre logement, en fait de faire des logements dans votre logement. Dès lors que vous avez un T3, T4 et au-dessus, vous pouvez avoir des logements donc, qui sont conçus pour avoir des studios intégrés. Et lorsque vous n'avez pas l'usage de la totalité de la surface de votre logement, eh bien, vous sous-louez le studio à un étudiant, par exemple. C'est ce que j'ai fait chez moi. Et ce qui permet d'avoir un revenu additionnel. Et ce qui permet d'avoir en fait une adéquation du nombre de personnes sur une surface donnée. Parce que souvent, soit les logements sont trop grands, soit ils sont trop petits, mais il n'y a pas cette flexibilité qui fait qu'aujourd'hui, il y a un grand gaspillage de surface. Il faut savoir que dans Paris, comme les femmes vivent plus vieux que les hommes, eh bien, vous avez énormément de mamies, dans Paris ou dans toutes les grandes villes du monde d'ailleurs, qui vivent dans des appartements qui sont surdimensionnés. Elles payent beaucoup de charges d'ailleurs par rapport à ça, alors qu'elles n'ont pas l'usage d'autant de surface. Alors après, il y a les places de parking privées, avec des petites boîtes qui se sont créées il y a quelques années et qui fonctionnent très bien. Les Yes Park, Zen Park, Bi Park, qui sous-louent votre parking lorsque vous n'êtes pas là. Et là aussi, ça permet d'avoir des infrastructures qui sont plus et mieux utilisées. Donc quand vous faites le sigma de tout ça, en tout cas mon logement il me rapporte 20 000 euros par an, c'est de la sous-location d'espaces partagés. Et c'est un peu plus intelligent parce que ça évite en fait le gaspillage minéral des matières premières qui ont été nécessaires pour fabriquer ces bâtiments. Alors bien sûr, je vous passe les détails, mais pour arriver à faire ça, il faut une petite domotique expérientielle adaptée. Il faut des systèmes d'ouverture des portes qui sont sans clé, donc avec des serrures électroniques, bien sûr, couplées à des terminaux de paiement. Ça nécessite un petit peu de technologie, mais c'est extrêmement rentable. Alors ensuite, le deuxième sujet pour faire des bâtiments centres de profit, c'est ce qu'on appelle la haute qualité d'usage. Alors la haute qualité d'usage consiste en fait pour les bâtiments tertiaires, je repasse sur le tertiaire, à dire, bon écoutez, les collaborateurs qui sont dans un bâtiment tertiaire, n'importe lequel, vous prenez toutes les tours à la Défense ou vous allez à la City à Londres ou dans tous les centres d'affaires dans le monde, pendant très très longtemps on a construit des bureaux en fait sans trop se préoccuper du confort d'usage des gens qui travaillaient dans ces bureaux, et ça c'est bien dommage parce que 86% des charges pour un bâtiment tertiaire, c'est pas l'énergie consommée par ce bâtiment, c'est pas la maintenance du bâtiment, ce sont les salaires que l'employeur ou les employeurs donnent à leurs salariés. Et donc, quand on a visité le siège social de Cupertino, de Google à Cupertino, on s'est aperçu qu'ils n'avaient pas un système, ils n'étaient pas organisés en open space ou en flex office comme la quasi-totalité des bureaux aujourd'hui dans le monde. Ils étaient organisés par typologie de tâches, c'est-à-dire pour respecter les cycles physiologiques des personnes qui travaillaient sur ces campus. Alors c'est quoi en fait une organisation par typologie de tâches? C'est une organisation qui consiste en fait à prendre en compte les cycles physiologiques dans la journée de travail. Donc de temps en temps on est parfaitement éveillé, et puis de temps en temps on a envie d'aller dormir, on a envie de manger, etc. Eh bien il y a un endroit pour chaque type de tâche, Et ça permet aux gens de passer d'un endroit à l'autre avec un maximum de confort d'usage. Et notamment la zone quiet, qui est la plus importante chez Google. Alors c'est quoi cette zone quiet? C'est une zone où il n'y a pas de bruit, hein, pas de conversation humaine, pas de téléphone, même les claviers et l'ordinateur ne font pas de bruit, ce qui permet d'avoir une concentration maximum. Donc là, les collaborateurs dans cette zone-là, ils passent 3 à 4 heures par jour, et maximum, parce qu'ils sont avec une intensité cognitive à 100%, ce qui est fatigant, et le reste du temps, ils sont dans d'autres zones. Donc, en fait, ils passent leur temps à bouger, ce qui est excellent d'ailleurs pour leur santé, vu qu'ils sont tous connectés avec des systèmes de coach santé électronique qui leur permet donc de maintenir leurs conditions physiques. Alors, le gros avantage de tout ce bazar-là, c'est que ben, vous augmentez la productivité de vos collaborateurs, sans les payer plus d'ailleurs, et ils sont plus heureux, ils sont plus productifs, ils sont de meilleure humeur, et surtout, et ça je vous garde le meilleur pour la fin, ben, ça permet en fait de réduire la surface de votre bâtiment de 30 à 40%. Pourquoi? Parce que dès lors que vous éliminez en fait les bureaux affectés, dès lors que vous éliminez en fait la place prise par les bureaux, alors que 70% du temps les gens ne sont pas derrière leur bureau, ils sont en mode socialisation, donc en réunion la plupart du temps, eh bien vous gagnez énormément de place, et ce qui permet de faire diminuer en fait le loyer pour l'entreprise. Alors c'est ce qu'on a fait, on s'est appliqué nous-mêmes ce genre de gadget là, et ça marche très bien. On l'a fait sur le siège social de Bouygues Immobilier, donc à Issy-les-Moulineaux. On a gagné 30% de surface, ce qui est quand même excellent pour la rentabilité d'une entreprise comme Bouygues Immo. Deuxième chose, je ne vous passe pas la vidéo, mais vous pouvez me croire sur parole, on s'intéresse beaucoup à la téléprésence 3D holographique. C'est quoi? C'est en fait de la visioconférence réinventée avec la perception que les personnes qui sont avec vous en réunion sont avec vous, car c'est assez bluffant. J'encourage à tester l'expérience parce qu'ils sont en 3D devant vous à l'échelle 1 avec un son extraordinaire et puis surtout avec un système de caméras qui font que quand vous regardez les gens, eh bien ils savent que vous les regardez, donc le body language fonctionne bien. Et donc ça, pourquoi c'est intéressant d'un point de vue du développement durable? C'est parce que ça permettra et ça va permettre en fait de mettre en place une dynamique de démobilité dans les entreprises qui coûte très cher la mobilité. Et donc la démobilité, c'est dire voilà, si on arrive à faire à distance qu'on faisait en présentiel, eh bien on va pouvoir économiser des billets d'avion, gagner du temps, gagner du commuting, etc. Donc ça, c'est en train de se développer avec la 5G qui arrive. C'est une technologie qui va se démocratiser. Et vous verrez fleurir dans les bâtiments tertiaires et probablement dans les campus universitaires des salles de téléprésence. Je vais d'ailleurs faire aux arts et métiers cette année une première conférence sur tous les sites des arts et métiers où, comme Mélenchon pendant la campagne présidentielle, ce sera mon hologramme qui sera projeté. Je ne serai que sur un site et les autres sites pourront voir la même conférence en même temps. La biophilie, ça aussi, c'est quelque chose qui est important pour la productivité et pour la qualité de l'air intérieur, qui est un vrai fléau dans les bâtiments. C'est d'avoir des remèdes du verre et pas simplement des plots d'agrément dans les bâtiments. Donc, il faut que ce soit conçu pour avec des écologues. Donc, là aussi, ça a un effet sur la santé, c'est un effet sur le climat social, c'est un effet sur la productivité. Donc, on commence à construire hein, partout dans le monde des bâtiments qui engendrent, enfin, qui intègrent plutôt ce genre d'approche. Et si vous avez l'occasion d'aller à Tokyo, alors en bateau bien sûr, hein, ou à pied ou à vélo, vous pourrez voir des bâtiments aujourd'hui qui sont complètement équipés avec ce type de technologie. C'est tout à fait étonnant. Et tous ceux qui travaillent là-dedans ne veulent pour rien au monde retravailler dans des bâtiments classiques. Alors, toujours haute qualité d'usage. Ce qu'on voit arriver aussi de plus en plus, c'est la notion de service intégré bâti. Alors ceux qui ont avancé ça, c'est les Américains avec leur concept de coworking WeWork, que vous connaissez sans doute. Donc on est en train, nous, d'essayer d'inventer avec Wujo et avec LinkCity et Bouygues Immobilier un concept équivalent de plateforme de service, donc ce qu'on appelle les plateformes de plateforme. C'est-à-dire quand vous allez acheter demain ou louer un bâtiment, enfin un logement Bouygues Immobilier ou LinkCity, eh bien vous aurez accès en fait en premium à une plateforme de plateforme, une espèce de city mapper du logement, où là, on ne va pas vous proposer des systèmes de transport, mais on va vous proposer une kyrielle de services qui auront été prénégociés par Bouygues avec des opérateurs, quels qu'ils soient, ce qui vous permettra, vous, de bénéficier d'une ristourne si vous utilisez les services qu'on vous propose. Et nous, bien sûr, Bouygues, en retour, on récupérera un fee sur les transactions. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça permet en fait d'améliorer le reste à vivre des locataires ou des propriétaires des logements qui sont, qui sont achetés par nos clients. Et ça permet aussi, bien entendu, d'instaurer une relation de confiance avec eux et de capter de la data, vous l'avez compris, pour pouvoir en faire ensuite, de vendre cette data à des opérateurs pour faire de la publicité contextuelle. Alors la santé aussi, on fait beaucoup de benchmarks au Japon. Ils ont un vrai problème au Japon de vieillissement de la population. Et ils ont développé avec des mutualistes, avec des mutuelles, un système qui s'appelle Pimping Colori, qui s'appelle Je suis en forme, je suis en forme, je suis mort, qui consiste en fait à mettre en face dans les appartements, pour 800 euros, un kit qui permet en fait aux personnes âgées de savoir si elles sont debout ou couchées, de savoir si elles ont, de leur rappeler lorsqu'elles ont des médicaments à prendre, d'avoir un système d'analyse d'urine instantanée dans leur toilette Toto qui leur permet tout de suite de voir s'il y a des anomalies dans leurs urines et donc de pouvoir aussi alerter un centre de santé connecté. Alors tout ça, ça a l'air de rien, mais les logements équipés de ce type de technologie permet en moyenne de laisser les personnes âgées dans le quatrième âge entre 2 et 3 ans de plus avant qu'elles partent dans leurs EHPAD à eux. Eh bien, c'est extrêmement rentable pour la société japonaise, le fait de maintenir à domicile plus longtemps ces personnes âgées. Et donc, on sera, nous aussi, de développer ce type de technologie pour nos propres logements. Alors, ce sont des packs qu'on peut équiper. Et ça, c'est excellent aussi pour l'approche sociétale de notre démarche. Alors, la domotique expérientielle, alors là aussi, loin de nous, l'histoire du CES Gadget de Las Vegas, où 90% des innovations sont complètement inutiles, n'ont aucun sens social et sociétal. En revanche, il y a quand même 2-3 trucs sympas à récupérer dans la domotique moderne aujourd'hui, et notamment les assistants vocaux. Car lorsque vous êtes handicapé, quand vous êtes une personne âgée, quand vous avez eu un accident de la vie, et ça peut arriver, et ça arrive à des dizaines de milliers de personnes, eh bien, le fait d'avoir des packs aussi qui sont implémentables facilement pour commander, ne serait-ce que l'allumage d'une lumière, l'ouverture d'une porte, etc., sans se déplacer, eh bien, c'est très pratique. Et ça se fait sans fil. C'est low-tech, quelque part, par rapport à la domotique première génération qu'on a connue. Et donc on développe aujourd'hui un système qui s'appelle Wizome, qui permet donc à ces populations-là de bénéficier d'assistants numériques pour leur vie quotidienne. Alors les flux physiques maintenant, donc vous savez que la loi française va imposer en 2020 que tous les bâtiments soient conçus à énergie positive. Donc Bouygues a été le premier à concevoir ce type de bâtiment en 2011 avec le bâtiment Green Office à Meudon. Alors, énergie positive, c'est les bâtiments qui produisent plus d'énergie renouvelable sur un an. Hein. Et donc, tous les bâtiments seront BEPOS. Alors, on peut faire de l'énergie avec différentes manières sur le bâtiment, vous le savez. Donc, ça peut être de la géothermie, de la photovoltaïque, de la cogénération, peu importe. Alors, en l'occurrence, c'est le Green Office Meudon, c'est du photovoltaïque. Mais grâce, en fait, à cette réglementation issue de Grenelle de l'environnement, il y a maintenant pratiquement 10 ans, eh bien, il y a un modèle économique qui est en train de se développer. Donc c'est quoi le modèle économique? C'est que le bâtiment qui produit l'énergie, bien sûr, il va pouvoir, et c'est le cas depuis maintenant près d'un an, autoconsommer ce qu'il produit. Donc c'est autant d'énergie qu'il n'achètera pas à l'énergéticien. Il va pouvoir aussi revendre l'énergie qu'il produit à ses voisins directs lorsqu'il n'en aura pas l'usage. Il va pouvoir stocker cette énergie produite dans des voitures électriques, et il y aura 5 millions de voitures électriques en France en 2030. Donc les parkings des bâtiments vont devenir en fait des hubs énergétiques à l'échelle locale. Ils vont pouvoir aussi s'effacer, donc comme ils seront autonomes une certaine partie de la journée, ils vont pouvoir s'effacer du réseau et donc être rémunérés pour ne pas tirer l'énergie à un moment où l'énergéticien pourrait avoir besoin d'une réserve de puissance. Et donc c'est un peu le JP, hein, on sera rémunéré sur l'énergie non consommée. Et donc tout ce que je viens de vous dire, eh bien, ça va permettre à l'émergence de nouveaux acteurs, qui sont en fait des opérateurs de smart grid ou de micro grid, qui vont venir s'interfacer entre les bâtiments et les opérateurs énergétiques classiques pour faire de l'optimisation énergétique à l'échelle du bâtiment, de l'îlot ou du quartier. Alors nous, on a une petite société qui fait ça aujourd'hui, qui s'appelle MBIX, et qui accompagne en fait nos clients dans cette équation-là, qui peut, dans certains cas, être extrêmement rentable, notamment dans les pays qui ont des tarifications énergétiques en temps réel, ce qui n'est pas le cas de la France, mais ça viendra. Et donc, lorsque vous êtes en tarification en temps réel de l'énergie, vous avez tout intérêt à écraser votre courbe de charge pour optimiser en fait votre consommation, mais aussi les coûts associés. Alors, il y a d'autres façons de produire l'énergie dans un bâtiment aussi. On voit de plus en plus, notamment en Malaisie, avec un brevet français, le brevet Biofuel System. Donc, c'est des micro-algues qui sont cultivées dans la façade du bâtiment. Donc, ces micro-algues, on les cultive, ensuite on les foule, on les récupère, hein, c'est la culture fixée, c'est dopé avec du CO2. On récupère donc de la biomasse. Cette biomasse, bien sûr, on peut la méthaniser, elle peut partir aussi en cosmétique. Et ça permet au bâtiment enfin, d'utiliser sa structure bâtie pour produire une énergie complètement renouvelable à base de biomasse. Alors on a aussi quelques expérimentations dans ce domaine-là. On voit apparaître aussi, il y a 75 modèles maintenant de véhicules électriques qui sont compatibles pour être véhicules tout home ou véhicules tout grid. Il y a un village au Japon qui s'appelle Fujiyama qui aujourd'hui a X voitures connectées au bâtiment qui peuvent renvoyer des électrons dans le bâtiment lorsque le bâtiment en a besoin, notamment au moment des pics. Et c'est autant d'énergie, bien sûr, qui n'est pas soutirée au réseau, ce qui permet de coûter moins cher aux propriétaires de ces bâtiments. Et puis, bien sûr, aux heures creuses, eh bien, la voiture se recharge en énergie. Donc, ces systèmes de voitures qui vont avoir donc des batteries réversibles arrivent maintenant sur le marché et participeront quelque part à l'équation énergétique des bâtiments, tant pour écraser la courbe de charge, qui est extrêmement mauvais pour les pics et donc les énergies fossiles qu'on utilise pour ces pics, mais aussi qui n'est pas bon du tout pour l'équation économique du bâtiment, parce qu'à chaque fois que vous avez un pic, eh bien vous avez une énergie qui coûte plus cher. Sur l'eau, qui est un vrai enjeu aussi, énormément de zones en stress hydrique, y compris en France. Donc là, c'est un projet qu'on a en Angleterre. Et pourtant, Dieu sait si en Angleterre, il pleut plus qu'en France, mais enfin, pas suffisamment, manifestement. Vous avez ici donc un bâtiment où on récupère les eaux grises dans une noue en face du bâtiment. Ce sont des roseaux macrophytes classiques. On fait de la phytoremédiation qui permet donc de nettoyer ces eaux grises. Ces eaux grises, ensuite, alors c'est les eaux de douche et les eaux de vaisselle, hein, ce n'est pas les eaux noires des WC. Hein, et on récupère ces eaux grises traitées pour les réinjecter précisément dans les toilettes, ce qui permet de faire 60% d'économie d'eau. C'est bête comme chou à mettre en place, ça fonctionne très bien et ça permet de faire des économies d'eau substantielles pour les gens qui habitent dans ce type de logement et ça, bien sûr, participe à diminuer le stress hydrique. Alors, on a déjà plusieurs bâtiments qui sont équipés de cette technologie et notamment le siège social de bout de construction à Challenger. Alors l'hydrogène, je vous encourage à lire un petit bouquin là, qui vient de sortir qui s'appelle L'hydrogène, le nouveau pétrole vert de Thierry Leperc qui présente en fait cette énergie comme étant une énergie d'avenir. Alors, vous savez que l'hydrogène c'est pas une énergie primaire, on a besoin d'une énergie primaire pour la fabriquer. Donc aujourd'hui beaucoup de l'hydrogène est fabriqué avec du gaz, ce qui est un non-sens bien sûr écologique, on ne gagne rien en CO2. Mais si on arrive à faire de l'hydrogène avec du soleil, avec le solaire, alors ça devient déjà beaucoup plus intelligent, même si les rendements ne sont pas très bons. Mais on s'en fout, vu que l'énergie primaire avec le soleil ou l'éolien, c'est gratuit, pourquoi s'en priver? Et il y a déjà des projets aujourd'hui où on récupère l'énergie solaire du bâtiment pour faire fonctionner, pour fabriquer l'hydrogène, et ensuite utiliser cet hydrogène, notamment soit dans des véhicules, soit pour refaire de l'électricité derrière. Et compte tenu de la baisse continue des panneaux solaires aujourd'hui, que ce soit du photovoltaïque classique ou des couches minces ou de l'amorphe, eh bien on pense que demain, toutes les infrastructures sont tartinées de photovoltaïque et on pourra donc fabriquer beaucoup, beaucoup d'hydrogène, ce qui sera nécessaire notamment pour le transport. Donc là, c'est un projet en Suède. Donc vous voyez que... Il y a beaucoup de solutions aujourd'hui, hein, il n'y a pas de limite technologique pour faire en sorte que les bâtiments tendent vers ce qu'on appelle une autonomie totale en matière du flux physique. Alors c'est sûr qu'il va falloir avoir des bâtiments qui soient conçus en conception bioclimatique, qui soient extrêmement sobres dans leur consommation. Si on veut qu'ils soient le plus positifs possible, eh bien, il faut qu'ils consomment le moins possible en mode de fonctionnement. Et pour ça, ça va nécessiter de revoir complètement l'architecture et la conception des bâtiments. Alors, on parlera, je vous rassure tout de suite, un petit peu de la rénovation également. Alors bon, tout ça, il y a tout un tas de projets qui sont en cours, notamment le projet ABC à Grenoble, qui sera le premier bâtiment autonome hors chalet de montagne à une grande échelle, 47 logements, Donc c'est le projet Autonomous Building for Citizens, construit par Bouygues à Grenoble. Et puis on n'est pas sectaire, on a mis quelques projets de la concurrence. Donc ça, c'est un projet en Suisse, 100% autonome en énergie électrique. Donc pas pour le chauffage, parce que c'est un bâtiment passif, il n'a pas besoin d'énergie pour le chauffage. Et c'est un projet en Suisse. Là, vous avez le projet hydrogène dont je viens de parler, un autre projet en Suède. Et là, c'est un système qui fonctionne avec des éoliennes à axe vertical. Alors, sur la valorisation des flux physiques, il y a d'autres trucs à faire aussi. Récupération de l'énergie de freinage des tramways, des trains, des métros. Alstom a développé un procédé qui s'appelle le procédé ESOP, où on récupère cette énergie de freinage pour précisément renvoyer l'électricité produite pour recharger les véhicules électriques, par exemple, en charge rapide, ou pour renvoyer ça sur le réseau. Ça marche déjà. On travaille beaucoup, de plus en plus d'ailleurs, en écologie industrielle urbaine pour faire en sorte d'éviter moins les gaspillages, d'éviter les gaspillages que l'on constate aujourd'hui. Je vous donne quelques exemples. Les data centers qui consomment une blinde, qui produisent énormément de chaleur fatale. Cette chaleur fatale aujourd'hui, elle est très peu capturée. Il y a très peu de projets où on récupère cette chaleur fatale aujourd'hui, alors qu'on est tout à fait capable de le faire avec des réseaux de pompes à chaleur. Cette chaleur fatale capturée, eh bien, on peut chauffer les piscines, on peut chauffer l'eau chaude sanitaire. Donc c'est essayer de toujours coupler, en fait, de faire en sorte que les infrastructures soient interdépendantes les unes des autres et pas indépendantes, comme c'est le cas aujourd'hui. Les calories des réseaux d'assainissement, on a un programme à Roquebrune-Cap-Martin on a récupéré les calories du réseau d'assainissement avec des pompes à chaleur COP7 et on fait la totalité du chauffage de ces bâtiments en hiver avec les calories du réseau d'assainissement, mais également l'eau chaude sanitaire. Donc ça prouve bien qu'il y a des potentiels énormes de récupération de chaleur fatale et d'énergie fatale dans les villes, sans parler bien sûr de la récupération des déchets organiques des villes, comme certaines villes le font déjà, avec donc méthanisation et cogénération in situ. Si vous allez visiter l'écoquartier de Hammerby, donc à Copenhague, vous verrez que ce système fonctionne déjà très bien. Alors le quatrième levier, c'est le levier qui est lié en fait à l'allongement de la durée de vie des bâtiments. Donc, aujourd'hui, hélas, les bâtiments ne sont pas conçus et construits pour durer très très longtemps. Alors, c'est un drame, hein, compte tenu que toute l'énergie grise qui est nécessaire pour fabriquer le bâtiment, les matériaux, tout ça, c'est gaspillé quelques décennies après la construction. Donc on se dit, dans les temps qui vont arriver et pour les décennies à venir, il va falloir faire des bâtiments à minima avec une durée de vie 3 à 4 fois plus longue si on veut, bien sûr, respecter l'accord de Paris. Donc il va falloir qu'on fasse des bâtiments qui sont réversibles, qui vont changer d'usage tout au long de leur vie, donc avec des trams universelles. Donc on a quelques programmes déjà qui sont en cours avec ce type d'architecture complètement nouvelle où on va déspécialiser les bâtiments pour faire en sorte qu'on puisse passer de trams tertiaires à des trams logements facilement sans devoir tout détruire tout simplement. Ce qui permet bien sûr de garder l'essentiel du bâtiment debout lorsqu'il change d'usage et donc d'économiser en fait des matières premières et du CO2 évité lorsque vous avez ce type d'astuce de changement d'usage. On voit aussi où arriver dans les villes denses de Nantes, hein, je pense dans l'hémisphère nord, des nouveaux concepts d'habitat qu'on appelle le co-living. Les coûts du logement aujourd'hui dans les villes denses est devenu complètement prohibitif parce que ce qui coûte cher, ce n'est pas les logements, ce sont les terrains. Et on arrive à des niveaux par prix au mètre carré qui sont complètement inaccessibles pour des jeunes actifs, même à deux salaires. Donc, ce qui est un non-sens d'ailleurs, parce que ça oblige les gens en fait à habiter loin des centres-villes et ça fait perdre énormément de temps et beaucoup d'énergie passée dans les transports. Donc, nous, on essaye de copier en fait des nouveaux modèles de bâtiments qui sont ce qu'on appelle le co-living, où on propose à des jeunes actifs, vous allez rapidement vous devenir des jeunes actifs sur le marché du travail, vous n'aurez pas forcément des salaires énormes au début de votre carrière, même si en tant que cadre vous serez privilégié par rapport à d'autres secteurs de la population, mais vous serez peut-être content de trouver un centre de co-living qui vous permettra d'acheter ou de louer, mais au moins d'acheter aussi des petites surfaces et donc pour dormir et de bénéficier donc d'espaces à vivre collectifs. Qui permet en fait d'avoir une vie sociale, mais partagée en pied d'immeuble. Alors l'avantage de ces espaces-là, c'est que ben, ça coûte moins cher et ça permet aussi de s'insérer dans une ville plus rapidement dès lors que vous êtes dans un écosystème friendly de gens qui sont à peu près dans vos âges et ça permet d'accélérer en fait l'intégration dans une ville. Alors on va vous parler aussi, je pense, de plus en plus du concept BIMBY. Alors BIMBY, ça va vous intéresser. BIMBY, ça veut dire Built in My Backyard. C'est pour travailler sur l'enjeu énorme de la rénovation des pavillons de banlieue qui ont été construits dans les années 60, 70, 80 et 90. Tous ces pavillons que peut-être vos parents habitent dedans, là, ce sont des épaves thermiques. Aujourd'hui, il y en a 15 millions en France. C'est des bâtiments qui, la plupart du temps, perdent de la valeur d'année en année parce qu'ils sont chers à entretenir. Plus personne ne veut acheter ce type de bâtiments qui sont complètement obsolètes. Donc les gens ne le savent pas vraiment. Mais tous les ans, ça perd de la valeur dans la 80% ou 90% des communes en France, y compris d'ailleurs dans les premières couronnes des grandes villes. Et donc, nous, on pense que ce micro-foncier, on va pouvoir le récupérer, proposer à des gens d'abandonner leur maison individuelle pour récupérer deux parcelles et faire des maisons de ville, quitte à reloger les gens dans ces maisons de ville et redensifier ces zones pavillonnaires pour pouvoir en faire des concepts d'éco-quartier ou d'éco-village, plus exactement. Donc on a déjà pas mal de projets, notamment dans des lotissements à côté de Toulouse, où donc on récupère des maisons qui étaient de chaque côté. Dans la trame des 4 mètres, des 2 fois 4 mètres, on met un système de construction modulaire bois, on repeint tout ça, et là où il y avait deux logements, eh bien on en fait 9 ou 10, ce qui permet en fait aux gens qui étaient dans ces logements de continuer d'habiter là s'ils le souhaitent, de récupérer 100K euros en numéraire, en cash, et d'avoir des revenus complémentaires pour leurs vieux jours, parce qu'il y a un des T2 et des T1 qui sont construits sur ces parcelles-là, eh bien, qui leur donnent un revenu complémentaire. Donc c'est très populaire. Lorsqu'on présente ça à nos clients, la plupart du temps, ils nous disent mais jamais on fera ça. Puis après, quand on leur donne le modèle économique, ils nous disent peut-être qu'on le fera, parce que c'est tout simplement extrêmement rentable. Il y a un truc qui arrive aussi. Très vite, alors on l'a vu ça à New York, à Berlin et surtout à Londres, qui est une ville aussi très très chère, alors peut-être plus pour très longtemps, mais qui reste encore chère aujourd'hui. C'est des systèmes en fait des entreprises françaises qui prennent des petites surfaces, parce que pour tout un tas de raisons aujourd'hui, les divorces, les vies amoureuses qui durent moins longtemps qu'avant, il y a beaucoup beaucoup de petits logements, mais les petits logements c'est pas très pratique parce que les murs ne bougent pas et donc c'est peu configurable. Donc on a inventé un truc là qui est génial, c'est que dans les petits logements, on applique la même ingéniosité que ce que les camping-cars font depuis des décennies, hein. Donc c'est transformer en fait des lieux de vie en fonction des usages, en mode salon, en mode chambre, en mode salle de ce que vous voulez. Et ce qui permet donc, c'est les cloisons qui bougent, mais ce n'est pas les cloisons qui bougent, ce sont les meubles qui bougent et qui permet d'avoir plusieurs configurations. Alors, il y a quelques vidéos là qui montrent ça. C'est tout à fait impressionnant. Et ça permet en fait d'avoir un 40 mètres carrés. Mais avec un 40 mètres carrés, c'est comme si vous aviez en fait l'usage d'un 50 ou d'un 60 mètres carrés parce que précisément, vous avez plusieurs configurations possibles. Et ça aussi, c'est excellent d'un point de vue développement durable parce que ça évite bien sûr un gaspillage de surface, sachant qu'une pièce supplémentaire en ville, c'est à peu près aujourd'hui 100 000 euros. Alors il y a tout un tas de concept building qui sont en train d'arriver sur le marché. Donc je vous encourage à aller voir ce que font Catera, ce que fait BoKlok, ce que fait Abix. Bon, je ne vous donne pas trop de pubs parce que ce sont des concurrents directs à Bouygues, hein, mais qui réinventent aussi leur modèle constructif. On pense que le modèle constructif traditionnel français, poteaux-poutres, béton, etc., the game is over, c'est fini, ça va s'arrêter, essentiellement pour des raisons de carbone. Parce que le béton, ça émet beaucoup de CO2 pour le fabriquer, enfin le ciment et l'acier. Et puis aussi, la construction béton aujourd'hui est peu efficace d'un point de vue productivité. Donc on voit arriver de plus en plus sur le marché des entreprises qui s'appuient en fait sur la construction modulaire, bois ou béton, mais de plus en plus bois, avec beaucoup moins de gaspillage de matières premières et avec des temps de construction qui sont divisés quasiment par deux. Donc on sait que tôt ou tard, tout sera modulaire. Et donc, c'est pour ça que des entreprises comme Catera, on les suit de très près, car la construction demain, que ce soit pour le logement ou pour le tertiaire, ce sera la construction modulaire. Alors, le gros avantage de la construction modulaire, eh bien, c'est ce que je vais vous dire après, c'est le trading des matériaux. Donc, dans le déboursé d'un bâtiment, un bâtiment qui vaut 100, Aujourd'hui, 20 à 25% du coût du bâtiment, c'est les matériaux qui le composent, que ce soit les pondéreux pour la structure, que ce soit modulaire ou pas, d'ailleurs, peu importe, ou les éléments finis, donc les chemins de câble, les faux planchers, etc., les fenêtres. Et là aussi, on voit que les générations qui nous ont précédés n'avaient pas du tout conscience de la finitude des ressources. C'est que, une fois que vous avez acheté votre bâtiment et que vous avez donc acheté ces matières premières, 20-25% du coût quand même, je rappelle, eh bien, à la fin de vie du bâtiment, alors, un bâtiment, il y a 6 à 8 grosses rénovations avant qu'il soit complètement détruit, en moyenne. Et lorsqu'on arrive à la fin du bâtiment, à la fin de vie du bâtiment, eh bien, il y a un démolisseur qui arrive, on est bien placé pour vous le dire, parce que Bouygues est aussi le premier démolisseur de France avec sa filiale Prémis. Donc on casse le bâtiment, on valorise très 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 peu les sous-produits, un peu l'acier, mais tout le reste, eh bien c'est cassé et c'est enfoui, donc pour l'éternité. Et donc ça c'est un crime hein, de faire ça. Donc grâce à la maquette numérique et puis grâce à ce concept-là, on veut faire des bâtiments des banques de matériaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est capable, grâce au BIM, de savoir exactement quels sont les éléments constitutifs du bâtiment. On utilise maintenant des modèles constructifs qui vont favoriser la déconstruction et non pas la démolition pour pouvoir savoir exactement ce que l'on a en stock physique dans un bâtiment avant même qu'il soit déconstruit et très très longtemps à l'avance. Et grâce à cette connaissance et cette traçabilité numérique du bâtiment, les concepteurs des bâtiments de demain pourront s'appuyer sur le parc existant pour aller chercher leur matière première. Alors, ce n'est pas du tout une vue de l'esprit, on commence à implémenter ce type de base de données. Par exemple, ce bâtiment, eh bien, tôt ou tard, il sera numérisé. On saura exactement combien il y a de mètres carrés de plancher, combien il y a de faux plafonds, etc. Et il va venir alimenter une banque de matériaux réels et pas virtuels. Et le jour où la maîtrise d'ouvrage va dire, de toute façon, ce bâtiment, on va le déconstruire, parce qu'on n'en a plus l'usage, parce que de toute façon, ce genre de cours n'existera plus dans quelques années, vu que vous suivrez tout ça en téléprésence, eh bien, on n'aura plus besoin de cette salle. Eh bien, on pourra savoir comment et quand récupérer ces matériaux, comment les reconfigurer, les refurbicher, les recycler ou les réemployer pour un autre bâtiment. Donc, les bâtiments vont devenir des banques de matériaux pour le futur. Et on travaille aussi avec des partenaires financiers, HSBC, Crédit Agricole, pour demain que les particuliers puissent acheter des livrets matériaux. Donc, vous pourrez acheter pour 1 000 euros de livret matériaux, parce qu'on pense que les matériaux dans le futur prendront la valeur, et donc vous aurez tout intérêt à être propriétaire quelque part des matériaux de construction, et les bâtiments seront des banques de matériaux physiques avec un stockage à coût zéro, vu que les bâtiments, tant qu'ils sont debout, eh bien, ils ne coûtent rien en stockage. Donc, ça existe déjà, tout ce que je viens de vous raconter. Alors, ce sont des micro-entreprises hein, qui font ça. Rotor en Belgique, New Life Twice en France, une filiale de Bouygues. Cycle Up, peut-être entendu parler, qui est une filiale de Egis et d'Icade. Donc, ça commence à se développer, ce type de business, où on récupère les matériaux de construction pour refaire d'autres bâtiments. Donc, on n'est pas sur le recyclage, on est sur le réemploi ou le détournement d'usage, ce qui est bien sûr, d'un point de vue développement durable, est beaucoup plus vertueux. Et enfin, le sixième levier d'un BHEP, c'est la valorisation des externalités positives. Donc le réchauffement climatique, de toute façon, il faut le limiter, mais on ne pourra pas l'arrêter, hélas. Donc on va se prendre le mur, l'humanité va se prendre le mur. La question est de se dire à quelle vitesse on va se le prendre. Et on se dit, ben, finalement, il va falloir qu'on commence à proposer à nos clients, ce qu'on fait d'ailleurs, pour les clients qui sont les plus aware de ce qui est en train de se passer, c'est des bâtiments ready to degrees, c'est-à-dire des bâtiments qui sont configurés pour être prêts pour les changements climatiques en cours. Sachez que la canicule qu'on a subie en région parisienne l'an dernier, qui a été très pénible pour ceux qui habitent dans les villes, eh bien, ce genre d'épisode caniculaire, ce sera monnaie courante dans les années qui viennent, et ça va durer souvent plus d'un mois ou 2 mois selon les modèles climatiques. Donc ce sera proprement invivable pour ceux notamment qui sont au dernier étage des immeubles. Et donc on se dit, ben, finalement, il va falloir qu'on propose à nos clients eh bien, des architectures bioclimatiques qui pourront avoir un confort d'été et un confort d'usage d'été sans clim acceptable par rapport à la température extérieure. Et on va en faire un argument de vente. On va dire après, vous pouvez nous croire ou pas nous croire, mais enfin bon, vous verrez bien ce qui va se passer. Je pense que certains clients vont nous croire. Et on va pouvoir donc vendre des bâtiments à conception bleue climatique qui pourront avoir un confort d'été et un confort d'hiver acceptable sans système électrique ou de chauffage additionnel. Donc pour ça, c'est ce qu'on appelle la conception bleue climatique avec les labellisations BBCA. On a pas mal de programmes qui sont aujourd'hui en cours de construction. On a gagné aussi des concours dans ce domaine-là. Et on utilise comme premier critère eh bien, le full bas carbone en coût carbone complet, ce qui permet de dire voilà, ben, à nos clients, mais non seulement vous aurez des bâtiments qui sont extrêmement passifs, mais quand la tonne de carbone va être à 50, 100, 200 euros, on sait très bien que tôt ou tard, avec ou sans gilet jaune, de toute manière, la tonne de carbone va réaugmenter. Eh bien, si on a des bâtiments qui sont net zéro carbone sur l'ensemble de leur cycle de vie, on améliorera bien sûr la green value du bâtiment, et ça va donner une valeur phénoménale pour les bâtiments qui sont véritablement bas carbone. Et ça, ce n'est pas en 2050, c'est maintenant. Mais que les bâtiments qui sont construits aujourd'hui, 75% d'entre eux seront encore sur pied en 2050. Donc voilà, je l'ai fait en mode express yourself, hein, mais vous avez compris à peu près la mécanique du BHEP. Tous les bâtiments, sans exception, ont un potentiel BHEP sur les 6 leviers. Donc on a conçu un configurateur. Donc quand on va avoir un client, on peut lui faire un truc traditionnel. On sait faire, ça fait 70 ans qu'on le fait. Mais bon, on n'en pense pas moins pour autant. Où on lui dit, voilà, on peut vous proposer un BHEP avec tout un tas d'options. Ça vous coûtera moins cher. Ça va même vous rapporter de l'argent dans beaucoup de cas. Donc le potentiel, il est entre 0 et 100% en fonction des options, bien sûr. Et ensuite, on fait un deal avec le client. On lui dit, voilà, si vous prenez un BHEP, on est capable de lui prévoir les recettes futures probables que ce bâtiment va générer en mode d'exploitation traditionnel. Alors, je vous ai dit, hein, le bâtiment, il est labellisé. Je ne vous l'ai peut-être pas dit. Non, je ne vous ai pas parlé de la Fondation Solar Impulse. Si. Donc, il est labellisé dans les 1000 solutions pour la planète. Alors, il n'y a pas que ça. On travaille aussi sur le concept de Smart Road. Donc, le concept de Smart Road, c'est de faire en sorte que la route, elle aussi, devienne productrice de richesses. Donc, bien sûr, en produisant de l'énergie avec le Wattway, mais aussi sur les bas-côtés de la route, en arrêtant les herbes folles comme on voit sur les routes départementales, et enfin, en essayant d'être un peu intelligent en utilisant ces bas-côtés pour faire de l'agriculture le long des routes, sachant que la route pourra devenir aussi un substrat pour épurer l'eau, alors qu'aujourd'hui, elles n'ont aucun usage sur la partie épuration de l'eau. Et aussi, on va utiliser la route pour lutter contre les îlots de chaleur en ville, avec un nouveau type de bitume, là, qui est un bitume évapotranspirant, qui se recharge en eau lorsqu'il pleut, et qui fait évaporer l'eau quand il fait chaud, ce qui permet de refroidir un quartier ou un îlot. Vous avez tous entendu parler en Asie de la folie des city box. Ce sont les fameux lampadaires intelligents. On a aussi un produit qui ressemble à ça. Donc, ça permet d'éliminer 7 infrastructures dans les villes, ce qui permet aux villes de faire grosses économies et d'avoir dans un lampadaire la possibilité d'avoir un lampadaire qui fonctionne en fonction de la luminosité de la nuit et en fonction du trafic, qui fait borne de recharge, véhicule électrique, qui fait vidéo, qui fait son, etc. Et tout ça dans une seule infrastructure, ce qui, bien sûr, en termes d'énergie grise et en termes de réseau, à déployer coûte beaucoup moins cher pour les collectivités. Les collectivités qui utilisent ce type d'infrastructure font 350% d'économie par rapport au coût global des infrastructures individuelles qu'ils seraient obligés de développer s'ils étaient dans un système séquentiel classique. Il y a le système aussi qu'on utilise de plus en plus dans les villes denses des parkings, des systèmes de parking outdoor intelligents. Donc quand on parle de Smart City, le but de la Smart City, c'est d'éviter les gaspillages. Sachez que 30% des véhicules qui tournent dans une ville cherchent une place de parking. Alors je parle des villes denses, hein, je ne parle pas des banlieues, bien sûr. Et chercher une place de parking, bien sûr, ça consomme beaucoup d'énergie, ça fait du bruit, etc. Avec les capteurs qu'on peut mettre maintenant dans la chaussée, on peut savoir en temps réel où il y a des places de parking de libre, ce qui permet aux gens donc, de se garer lorsqu'il y a de la place, ils le savent qu'il y a de la place. Et surtout, quand ils se garent et qu'ils n'ont pas payé, eh bien, on est capable de les détecter tout de suite et d'enlever la voiture, ce qui fait faire des grosses économies aux communes. Il faut savoir qu'une ville comme Paris, aujourd'hui, il n'y a que 9% des gens qui payent leur parc-mètre, 9%. Le manque à gagner par an, c'est 320 millions d'euros. Donc on a été voir Mme Hidalgo, on lui dit, voilà, nous, on a un système, on peut vous faire rentrer 320 millions d'euros dans la caisse, à condition, bien sûr, de le déployer. À réfléchir. L'agriculture urbaine, ça, c'est en train d'arriver partout, dans tous les continents. Ici, vous avez une ferme d'agriculture urbaine à Singapour, avec des salades qui poussent en hydroponie. Ici, vous avez deux tours en Italie par l'architecte italien Boeri. Tout ce qui se voit ici, tout ça se bouffe, hein. C'est des clémentines, des kiwis, des citrons, etc. Et donc, il y a un système qui permet à des exploitants de récupérer les fruits sans passer par les logements. Et c'est redistribué, bien sûr, à ceux qui habitent dans ces tours. Mais comme il y en a beaucoup plus qui sont capables d'en bouffer, eh bien, le reste est vendu, ce qui permet donc de faire vivre ceux qui s'en occupent. Ici, c'est un écoquartier qu'on a conçu dans le quartier de Econotte, sur la commune de Gland, en Suisse. Il y avait deux solutions dans l'écoquartier. Soit on faisait des pelouses à la con, comme on l'a fait pendant des décennies, avec des tondeuses à gazon qui réveillent les gosses l'après-midi. On s'est dit, bon, on ne va pas faire ça. On va mettre en place des jardins ouvriers dans l'écoquartier. Donc, on a distribué des parcelles de jardins ouvriers aux gens qui habitent dans l'écoquartier. Et eh bien, ça a super bien pris, ça marche très bien. Donc, les gens cultivent leurs parcelles. S'ils ne veulent pas cultiver leurs parcelles, ils peuvent céder à un voisin leurs parcelles, et ça fait des parcelles plus grandes. Et ils cultivent leur jardin quand ils ont envie de le cultiver. Ils produisent bien sûr des légumes et des fruits qu'ils mangent eux-mêmes, mais aussi qu'ils peuvent revendre, parce que là aussi, ça en produit beaucoup plus qu'ils sont capables d'en manger, ce qui crée aussi un petit modèle économique à l'échelle du quartier. Et résultat des courses, il n'y a pas de pelouse, et donc il n'y a pas de nuisance, et il n'y a pas de frais d'exploitation liés à l'entretien des espaces verts, comme on dit aujourd'hui, qui sont en fait complètement ridicules aujourd'hui, compte tenu des besoins en alimentation, en circuit court. Et il y a d'autres projets. Donc ça, c'est un projet, ça c'est un bâtiment au Japon, où toutes les plantes sur 11 étages, tout se bouffe. Voilà. Donc les tomates, il y a des concombres, il y a des aromates, il y a tout ce que vous voulez. Et toute la lumière arrive en fibre optique, donc c'est pas la lumière artificielle, c'est des puits de lumière qui sont pris sur le toit du bâtiment, et qui vient donc, enfin, si vous n'avez pas de lumière, vous n'avez pas de plantes, donc qui vient éclairer tout ça. Alors les fermes urbaines, il y en a de plus en plus. Il y a ici, vous avez ici une ferme souterraine à Levallois-Perret, sur des parkings qui sont non utilisés, une ferme urbaine en climat contrôlé, qui fonctionne très bien. Et il y a tout un tas de sociétés qui bossent avec nous là-dessus, Terre de Monaco, Peace and Love, les Jardins de Galie, Invivo, qui nous aident aujourd'hui à mettre de l'agriculture dans les villes pour fonctionner en circuit court. Alors ça, c'est intéressant, c'est un concept de route avec des déchets plastiques. Vous savez que l'un des externalités négatives les plus importantes sur cette planète, c'est la production de plastique. Ça devient vraiment un problème de santé publique, même dans les océans, même dans l'air. On trouve même des molécules de plastique aujourd'hui à 8 000 mètres d'altitude dans l'Himalaya. C'est devenu complètement dingue. Donc il va falloir capturer tout le plastique que vos parents et vos grands-parents et que vous-même avez généré depuis le début de l'ère industrielle. Et ce plastique, parce qu'il faut 400 ans à peu près pour éliminer le plastique, donc on ne va pas attendre que ça s'élimine tout seul. Il va falloir qu'on aille le chercher là où il est, dans les océans, dans les rivières, dans le sous-sol. Et on va fabriquer des routes avec. Voilà, on peut fabriquer des routes. Donc il y a un brevet qui est en train d'être déployé en Angleterre. Donc on travaille avec eux, la Colas UK, pour récupérer ce plastique et refaire des routes. Lorsque on n'aura plus de bitume, ben on aura encore du plastique pendant des décennies pour refaire les routes. Ça, c'est un projet tout à fait intéressant. C'est aux Pays-Bas. Vous savez qu'avec l'augmentation et la montée des eaux, ben, il y a tout un tas de. Et puis les pluies diluviennes liées à l'artificialisation des sols, il y a tout un tas de villes qui sont régulièrement inondées. Donc on va avoir de plus en plus des infrastructures, des bassins d'orage qui vont être nécessaires pour éviter l'inondation des villes. Et là, en fait, ils ont fait un truc super, c'est qu'ils ont fait un parking qui est flottant. En fait, quand il pleut beaucoup, eh bien, ça remplit un espèce de bassin qui fait monter le parking, en fait, comme un bateau, hein. Et puis, quand il pleut plus, eh bien, ils relarguent l'eau petit à petit pour éviter, bien sûr, d'engorger la station d'épuration. Et puis, bien sûr, avec le système qui descend, eh bien, ils fabriquent, bien sûr, de l'électricité. Donc, c'est quand même pas idiot comme approche. En 1 minute de conclusion, sachez que pour faire tout ce que je viens de vous dire, ça c'est le savoir-faire de Bouygues aujourd'hui. Donc, gros œuvre, le béton, les études thermiques, tout ça. Bon, voilà, très bien, on est reconnu mondialement sur ça. Sauf que tout ce que je viens de vous dire, ce sont des compétences qu'on n'a pas toujours et qu'on achète aujourd'hui à l'extérieur. Mais On souhaite que les collaborateurs qui vont nous rejoindre, c'est pour ça d'ailleurs qu'on passe du temps dans les écoles à expliquer ça. J'ai créé plusieurs masters spécialisés avec le STP, avec l'ENSAM, et même ici avec le NPC sur un master spécialité Smart City. Et on a besoin des nouvelles compétences sur la sociologie urbaine, sur les bilans carbone en coût carbone complet, sur les ACV, sur le fonctionnement des smart grids. Parce que les gens qui savent faire ça aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup. Et c'est pourtant l'essentiel de la valeur que l'on va proposer à nos clients dans les années qui viennent. Donc je vous conseille en tout cas de vous intéresser à ce qui se passe en haut à droite sur ce graphique. Alors vraiment c'est fini. Sachez simplement qu'on va vers ce qu'on appelle une haute qualité d'usage. Les gens, demain, les consommateurs vont vouloir jouir de tout sans rien posséder. C'est ça, on va rentrer dans ce monde-là, dans le monde de l'usage. On veut payer ce que l'on consomme. Tout sera mutualisé, les voitures sont mutualisées, les bâtiments seront mutualisés, de manière à avoir un temps d'usage qui soit le plus grand possible des infrastructures et limiter les constructions inutiles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, un campus universitaire, c'est 12% du temps utile d'utilisation, c'est un scandale. Les bâtiments tertiaires, c'est 25% du temps utile d'utilisation, c'est un double scandale. Donc là aussi, il faut qu'on construise moins, mais qu'on utilise mieux les infrastructures. Il va falloir qu'on soit ready to X, et notamment ready to degrees, parce qu'on sait très bien que les changements climatiques, aujourd'hui, on ne les arrêtera pas. Donc ça, il faut le prendre en compte. On va vers une économie qui sera full circulaire, où les données de sortie des uns deviendront les données d'entrée des autres. C'est une obligation, qui est une obligation physique, mais une obligation morale aussi vis-à-vis des générations futures. Donc là aussi, on n'a pas le choix. Et on doit raisonner, bien sûr, en coût carbone complet. Voilà, donc vous voyez qu'un bâtiment classique ici, il a un certain coût, on est d'accord. Un bâtiment hybride à économie positive, il a aussi un certain coût, mais comme il génère des recettes, eh bien le bilan économique est favorable. On est donc bien dans l'économie bleue et pas dans l'économie verte.
Bonjour, Isaac Franchetteau de la Business School de l'École des Ponts. La première question, parce que c'est toujours la plus difficile. Comment vous parliez tout à l'heure de biodiversité en préambule. Donc je voulais savoir ce que Bouygues fait justement pour la sauvegarde, la préservation, mais aussi le développement de la biodiversité. Point très important. Et deuxième point, alors là je vous challenge un petit peu, et je suis dans mon rôle dans la formation, c'est que là vous nous présentez une présentation, je dirais thèse, où tout se passe bien, c'est parfait, ça fonctionne parfaitement. Quelle est l'antithèse? C'est-à-dire quels sont vos challenges, notamment dans ce qui est la réutilisation ou le recyclage des gravats dû à la déconstruction, à la démolition des immeubles, parce que c'est votre activité également. On construit bien et intelligent et vous vous positionnez comme un prestataire de services dans la transformation digitale, top. Maintenant, qu'est-ce que de l'existant qui ne sera pas réutilisable ou démontable ou enfin qui créera un nouveau modèle économique, que faites-vous? Donc deux questions, la biodiversité et la gestion des externalités gravats et de la déconstruction.
Alors sur la biodiversité, c'est vraiment un vrai enjeu. Donc on a créé, vous le savez peut-être, le label Biodiversity il y a quelques années, qui est un label qui fixe en fait un référentiel pour intégrer la biodiversité dans les ouvrages bâtis. Donc je vous encourage à aller sur le site et vous allez voir toutes les cases qu'il faut cocher aujourd'hui pour obtenir ce label. On a plusieurs dizaines de bâtiments aujourd'hui qui sont labellisés Biodiversity et ça s'étend maintenant à l'échelle du quartier. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui ce n'est pas dans les villes où le challenge de la biodiversité est le plus important, c'est surtout au contraire dans les zones qu'il faut préserver. Donc là on a aujourd'hui des départements d'écologie industrielle et notamment pour les ouvrages de TP, de travaux publics, où il y a des obligations légales. Il faut reconnaître que c'est surtout les obligations légales qui, aujourd'hui, drivent les grandes entreprises, mais tant mieux si elles existent, hein, et qui nous obligent à faire de la compensation lorsqu'on stérilise, lorsqu'on fait passer une voie ferrée ou une autoroute, et puis qui nous oblige aussi à faire des corridors écologiques. Et ça, je vous garantis que ça marche très bien. Hein. On a maintenant des vraies expertises. On a des écologues. Chez Bouygues, on a une dizaine d'écologues qui travaillent en support des grands projets, précisément sur cette question de la biodiversité. Et tout ce que je vous ai dit là, ça participe aussi un petit peu à ça. Parce que si demain, on a moins d'ouvrages bâtis, on aura moins d'artificialisation des sols et on aura plus de place pour des terres arables et pour remettre de la nature en ville. Donc c'est un peu ça le challenge aussi. Hein. C'est que si on a une approche moins égoïste dans l'utilisation de nos infrastructures, on va pouvoir donc retrouver des espaces naturels et faire des corridors, des trams bleus, des trams vertes dans les infrastructures, enfin dans les villes. C'est un vrai enjeu, vous avez raison. On sait ce que ça va nous coûter quand il n'y aura plus de biodiversité, on ne sait pas combien ça nous rapporte aujourd'hui. C'est quand même complètement ridicule de vouloir monétiser la vie, parce que c'est ça la biodiversité. On doit la sanctuariser. Il ne doit pas y avoir de débat sur l'intégration ou pas de la biodiversité. Ça doit être une figure imposée auprès des constructeurs. Mais je rappelle que Bouygues, comme les autres, on est des preneurs d'ordre, on n'est pas des donneurs d'ordre, sauf quand on est promoteur, bien sûr, mais c'est une petite activité chez nous. Et donc là, il y a un gros travail de sensibilisation des acteurs, des aménageurs, des collectivités qui doivent, eux, prendre en compte le vivant dans leurs prescriptions vers les constructeurs. Ça, c'est ma première réponse. La deuxième réponse, c'est alors les gravats, comme vous dites. Aujourd'hui, les gravats, c'est ce qui se récupère le mieux dans les bâtiments, parce qu'on les récupère en sous-couche routière aujourd'hui. Si, quand même. Du tout, c'est pas une grosse valeur ajoutée, parce que c'est quand même mieux que d'aller taper dans les alluvions, dans les rivières, pour récupérer des cailloux neufs. Hein, ça, c'est déjà, en termes de développement durable, c'est déjà un peu mieux. Mais c'est vrai que ce n'est pas un modèle économique extrêmement vertueux. Ce qu'on a, vous avez peut-être entendu parler ici dans cette belle école du programme Recibéton, c'est le programme qui consiste en fait à faire en sorte qu'on puisse utiliser du vieux béton pour fabriquer du béton neuf. Aujourd'hui, la réglementation nous a fixé à maximum 8% cette limite, alors que dans certains pays, ça peut monter jusqu'à 20-25. Ça dépend de ce que vous fabriquez, bien sûr. Et nous, on pousse pour qu'on puisse récupérer et avoir l'autorisation administrative et du CSTB, etc., pour pouvoir réutiliser ces matériaux de construction anciens pour refaire du neuf. Bon, ça sera un exutoire qui pourrait être intéressant pour nous. Merci.
Moi, j'avais une question sur l'acceptabilité, en fait, sur notamment le passage à une économie où tout est mutualisé. Ce qui n'est pas complètement cohérent avec, malgré tout, des instincts assez profonds de propriété privée, surtout sur le logement. Et donc, comment vous appréhendez ces questions? Comment vous les traitez? Parce que là aussi, effectivement, dans une version un peu moins idyllique, comment on accompagne vers ça? Et puis, quand est-ce qu'on sait aussi quand est-ce qu'il faut s'arrêter et qu'on tape dans des choses qui sont trop dures?
Alors, votre question, elle montre bien à quel point, en fait, dans notre mode de pensée, on est toujours en binaire 0 ou 1. Et en fait, dans la vie, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et bien sûr qu'il y a tout un tas de gens qui pensent et qui se disent « Jamais je mutualiserai mon bâtiment, jamais, 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 jamais. » Et c'est les mêmes qui disaient d'ailleurs « Airbnb, ça fonctionnera jamais. » etc. Donc, on s'en fout que tout le monde s'y mette en même temps, parce que de toute façon, on ne saurait pas le faire. Mais on sait qu'il y a suffisamment de gens qui, aujourd'hui, dans un marché qui est en train d'émerger, va adhérer à ce type de concept. Et puis ensuite, on verra bien. On est en process test and learn, on va faire pivoter le modèle plusieurs fois. Et heureusement, à la limite, que tout le monde ne s'y met pas en même temps, parce que de toute façon, on sera incapable de suivre. Donc vous avez raison, il y a des freins sociologiques évidents, il y a beaucoup de clients qui nous disent « mais jamais je mutualiserai mon parking, ma salle polyvalente, etc. » Puis on lui dit « mon coco, de toute façon, tu fais ce que tu veux, c'est toi le client, c'est toi qui décides. » Mais moi, quand je vais en clientèle, la plupart du temps, je leur dis « écoutez, quand je vais voir des prospects pour des bâtiments tertiaires, je commence par la conclusion, parce qu'en fait, l'attention, c'est 10 minutes. Hein. Donc, je commence par la conclusion. Je leur dis, écoutez, si vous voulez, on peut diviser par deux les surfaces que vous pensiez avoir besoin. Alors, déjà, ils vous regardent comme ça, le type. On va augmenter la productivité de vos collaborateurs. On peut vous proposer d'augmenter la productivité de votre collaborateur de 40%. On peut diviser par deux les transports de vos collaborateurs domicile-travail. On discute, on continue de discuter ou on parle du projet tel que vous l'aviez en tête. Et lorsqu'on a affaire à des gens qui savent compter, ben, ils nous disent bon, on va commencer par nous proposer ce que vous êtes en train de vous dire là, nous dire, parce que en fait c'est là qu'on leur fait gagner un paquet de pognon, quoi, un paquet de fric. Et on ne pourra pas vendre du développement durable si on ne parle pas de l'équation économique. Et lorsque vous leur dites que ça va être mieux pour eux et que ça va leur coûter beaucoup moins cher, je peux vous garantir qu'ils vous écoutent. La preuve, c'est qu'aujourd'hui on en vend.
Finalement, vous raisonnez sur des personnes qui veulent faire un nouveau projet. mais il y a une question de transition. Donc on comprend bien les aspects techniques, ils sont prêts, vous les avez. Mais il y a une dimension politique énorme. Il y a plein de choses qui se passent à Paris. Ce n'est pas une question de technique, c'est une question de politique publique, oui, finalement. Et ça, comment vous articulez ça dans votre réflexion?
Mais si on ne peut pas le faire à Paris, on le fait ailleurs. Hein. On est dans son pays, aucun problème.
Non, mais c'est plus... C'est pas lié à Paris, c'est pour un exemple, pour vous dire que ça s'articule avec des politiques publiques aussi assez fortes.
Non. Aujourd'hui, il y a effectivement... la politique, c'est la voiture balai du système. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut nous aider beaucoup. Le Grenelle de l'environnement a été un booster extraordinaire. Donc les politiques publiques, là-dessus, ça peut être un... Mais aujourd'hui, dans le merdier dans lequel on est, hein, parce qu'il faut quand même regarder les choses en face... C'est une catastrophe ce qui est en train de se passer. Donc, on est au début du mode panique chez les politiques là, sur ces sujets. Donc, on utilise beaucoup le mode dérogatoire, et ça marche. Et on utilise beaucoup le levier dit économique. On dit à la collectivité, je vous donne l'exemple sur Bimby. Bimby, il y a beaucoup de PLU qui ne nous autorisaient pas à faire 9 logements là où il y avait 2 logements. Puis on va voir le maire, on lui dit, voilà, bah, écoute, ton PLU, il est comme ça. Mais... c'est très bien, mais aujourd'hui, le fait qu'il n'y ait pas de densité dans ces zones, les transports en public coûtent une blinde, les écoles ferment parce que les enfants grandis, ils sont partis, les commerces sont partis. On dit, soit tu révises ton PLU et on refait vue le quartier, soit tu es mort, tout simplement. Et donc, d'ailleurs, le développement durable n'est pas obligatoire, parce que la survie n'est pas obligatoire non plus. Hein. Donc, de toute façon, il y a suffisamment de clients aujourd'hui, franchement, qui sont conscients de tout ça. Et heureusement. Alors, bien sûr, il y a des cyniques, bien sûr, il y a des sceptiques, bien sûr, il y a des gens qui nous renvoient des réglementations, etc. Mais on s'en fout. On va voir ceux qui veulent travailler, ceux qui veulent avancer. On va voir des gens qui sont empreints de progrès, qui ont compris qu'il est en train de se passer. Et puis les autres, de toute façon, comme on ne peut pas tout traiter en même temps, moi, personnellement, je ne passe pas une minute de mon temps avec des gens qui n'ont pas envie d'avancer. Tu n'as pas envie d'avancer, tu restes dans ton coin, et puis tu reviens nous voir quand on aura compris. Mais aujourd'hui, je vous garantis que tous les jours, on reçoit des coups de téléphone, des sollicitations de maires, de présidents de collectivités qui ont compris ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est tout à fait rassurant.
On voit bien que Bouygues est entrepreneur dans cette action. Bouygues s'appuie aussi sur un écosystème, créé lui-même les entreprises. Vous avez parlé de partenaires avec lesquels vous travaillez. L'action collective, elle se passe où ? Ouais, parce que vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Si on part dans une idée de transition de long terme, ça ne peut pas se faire tout seul. Donc l'action collective, elle se situe où ?
À plusieurs. Déjà, ça commence par la concertation au niveau du programme. Donc de plus en plus, on utilise des plateformes de concertation, des plateformes numériques, là pour le coup, type Agora et autres, pour co-concevoir avec les parties prenantes ce type de programme. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs pour tout ce qui était réinventer Paris, réinventer la métropole, etc. On a beaucoup utilisé ces outils-là. Ensuite, on est complètement d'accord que pour faire ça, notamment quand on a répondu aux démonstrateurs industriels pour la ville durable, que ce soit à Lyon ou à Descartes 21, là, on utilise des consortiums. Donc on chasse en meute, vu qu'on ne sait pas tout faire, on s'en fout d'ailleurs. Donc on propose à la collectivité donc un leader, qui peut être nous, mais on est de temps en temps, nous aussi, membres de consortiums qui sont leadés par d'autres. Et c'est ce qu'on a fait à Dijon. Donc, quand on a gagné Smart Dijon, qui est le premier laboratoire Smart City à la française qu'on a gagné il y a 2 ans, et on est en train de répondre sur Angers, on a dit quoi à Repsanem, qui est le maire de Dijon? On lui a dit, voilà, tes 12 000 feux lumineux, les feux tricolores, les lampadaires, etc., c'était géré à l'ancienne, en mode séquentiel, ça lui coûtait une blinde. Et lui, on lui a dit, écoute, on peut diviser par deux tous ces coûts-là et remettre de l'argent dans le social, dans les crèches, dans la dépendance, etc. Et on lui a fait une proposition d'un cockpit qui permet en fait d'avoir une vision globale de tous les flux et d'avoir des équipes de maintenance pluridisciplinaires qui permettent d'intervenir sur tous les problèmes de maintenance dans la ville et donc de mutualiser les services. Et ben, s'il a dit oui, et puis il ne regrette pas, hein, parce que ça lui coûte moins cher. Et donc là aussi, on n'a pas fait ça tout seul, parce qu'on ne savait pas tous les savoir-faire. Donc on s'est associé avec Suez, avec Capgemini, avec Citellum, on s'est associé avec des entreprises pour pouvoir coproduire de la valeur ensemble. C'est ce qu'on ne faisait pas avant, mais c'est ce qu'on fait de plus en plus maintenant. Mais là où on progresse le plus vite, c'est quand on a un projet concret. Voilà. C'est pour ça qu'on aime bien travailler avec des collectivités ou avec des clients qui ont des projets pour les 2-3 ans qui viennent. Parce que là, on peut implémenter rapidement les solutions qu'on imagine. Mais ça n'empêche pas qu'on fait partie aussi de clusters, Futura Mobility, Shift Project, etc., qui nous aident aussi à réfléchir avec d'autres entreprises, d'autres secteurs d'activité que les nôtres, pour trouver des solutions combinées. Alors, c'est quoi une solution combinée? Je vais vous donner un exemple. C'est que on voit bien aujourd'hui que la solution, elle sera transversale. Lorsque vous faites de l'écologie industrielle, urbaine, c'est bien la convergence de plusieurs secteurs qui fait que 1 plus 1 égale 3. Je reprends mon exemple de calories des réseaux d'assainissement. Aujourd'hui, vous avez Suez ou Veolia qui gèrent les eaux usées dans une ville. Vous avez EDF, Enedis qui distribue l'électricité. Vous avez Bouygues qui fait le bâtiment. Bah, tout ça, chacun travaille dans son silo et on ne se parle pas. Hein, autrement, l'un est fournisseur de l'autre, mais les technologies ne sont pas imbriquées. Si demain, on veut récupérer la chaleur fatale dans un réseau d'assainissement, techniquement, c'est que dalle à faire. Par contre, le modèle économique pour récupérer les calories, à qui appartiennent les pompes à chaleur, qui va les exploiter, tous ces business qui sont à l'interface entre différents types de business, c'est très compliqué. Pire, pour les collectivités aujourd'hui, une collectivité, une ville comme Bordeaux, Lille, etc., ils ont leur service central qui s'occupe de l'éclairage urbain, leur service central qui s'occupe des bornes de recharge de véhicules électriques, c'est nouveau, leur service central qui s'occupe de la vidéosurveillance. Chacun a son budget, chacun a ses prestataires. Nous, on arrive avec Citybox, qui remplace 7 systèmes. On dit à la collectivité, si vous prenez ce lampadaire, vous allez remplacer 7 réseaux, 7 infrastructures différentes. Et le gars, il vous dit, bon, on ne peut pas, parce qu'en fait, on est sur des budgets différents, on est avec des prestataires différents, avec des temporalités de fin de contrat qui sont différents, donc on préfère ne rien bouger. Mais nous, on dit aux administrés, on dit à ceux qui habitent dans ces communes-là, on les dénonce. On les dénonce, on dit attention, les petits gars, là, ça vous coûte beaucoup plus cher que si vous avez une approche intégrée. Mais l'approche intégrée, ça nécessite en fait d'acquérir des nouvelles compétences ou de s'associer, de coproduire de la valeur avec des acteurs. C'est pour ça que quand on parle, par exemple, du traitement d'eau in situ dans les villes, nous, on ne sait pas faire de traitement d'eau. Donc, si on veut faire de la qualité de baignade pour réinjecter dans les toilettes, etc., eh bien, avec nos systèmes que je vous ai montrés là de remédiation des eaux grises dans des nous, ben, on ne peut pas le faire tout seul. On a besoin de s'associer avec des traiteurs d'eau qui savent faire ça. Et on propose un coproduit avec eux et on se partage la valeur. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que souvent, cette partage de la valeur, c'est une partage du risque, c'est une partage de la responsabilité. Et l'essentiel du temps qu'on passe d'ailleurs, ce n'est pas à résoudre le problème technique, c'est à résoudre le problème juridique. Donc là où il y aurait besoin, à mon avis, de zones de recherche dans les mois et les années qui viennent, c'est sur ces interfaces entre différents types d'industries. Je vous donne un exemple, le data center qui produit la chaleur fatale aujourd'hui. Cette chaleur fatale, elle appartient au data center, certes, mais elle n'est pas utilisée par le data center. Au contraire, le data center souhaite s'en débarrasser. Mais si on met ça dans le réseau de chaleur de la ville, comment on monétise ça? Qui va payer l'infrastructure d'interface? C'est compliqué. Aujourd'hui, on ne sait pas faire ça. Enfin, on ne sait pas le faire, en tout cas, à la bonne échelle. Alors que c'est ça qu'il faudrait pouvoir faire.